de la vie et de la terre.
Enjeux planétaires contemporains. Terminale spécialité. Les climats de la Terre. Comprendre le passé pour agir aujourd'hui et demain. Chapitre 1. Reconstituer et comprendre les variations climatiques du passé. L'ensemble des données accumulées depuis 150 ans, notamment par des relevés locaux météorologiques, montre un réchauffement climatique indéniable de plus d'un degré corrélé à l'activité humaine. D'ailleurs, dans cette deuxième décennie du XXe siècle, nous avons dépassé un point de non-retour du réchauffement climatique, aux conséquences majeures pour l'ensemble de la planète et en particulier pour l'humanité. Ce qui reste à venir peut être plus ou moins modulé en fonction des efforts de chacun. Néanmoins, des climato-sceptiques invoquent toujours un réchauffement climatique qui ne serait pas lié à l'homme, notamment en invoquant des preuves de réchauffement climatique antérieures à l'activité industrielle. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de faire le tri parmi les méthodes employées pour analyser les climats passés et pour pouvoir observer les causes des variations climatiques. Plus les méthodes seront diversifiées, et plus les résultats iront dans un même sens, alors plus le climat passé sera avéré et sa cause déterminée. Le but de ce chapitre sera de pouvoir mieux cerner les méthodes scientifiques employées pour analyser les climats passés, afin de mieux comprendre les changements vécus aujourd'hui et d'en déterminer les causes. Alors attention, ce chapitre est connecté à celui de l'enseignement scientifique, notamment sciences, climat et société. Alors toujours se poser les problèmes suivants. Comment reconstituer les variations climatiques passées? Quelles sont les variations observées et surtout, sont-elles locales ou mondiales? Enfin, comment choisir une méthode fiable, la plus adaptée possible, en fonction de l'époque étudiée et en fonction des moyens que j'ai à ma disposition. Quels ont été donc les climats passés et suis-je capable de retracer cette histoire? Grand 1. Les différentes méthodes d'études de climats passés. Alors il existe différentes méthodes d'études des climats passés qui vont dépendre des échelles de temps et des matériaux utilisés. Ce qui importe donc, c'est de relever différents indices qui vont nous renseigner sur une échelle de température à une époque donnée et au niveau d'une localité. Ensuite, on pourra donc conclure sur une variation globale de la température, mais il faudra toujours prendre en compte la précaution suivante, c'est de s'assurer que les variations se sont reproduites à l'identique à différents endroits du monde. Seulement à ces conditions-là, on dira que la variation a été globale. Grand A, le principe d'actualisme, ou encore qu'on appelle uniformitarisme. Alors tout d'abord, une définition. Qu'est-ce que l'actualisme? C'est le principe de base de la géologie moderne qui postule que les processus qui s'exercent aujourd'hui se sont exercés aussi dans le passé. Ainsi, on peut appliquer un principe d'uniformitarisme, c'est-à-dire que des phénomènes semblables s'opèrent en tout temps et en tout lieu. On avait vu ce principe-là dans la géologie et le temps. On peut donc étudier des êtres vivants ou des sédiments répartis en fonction des climats actuels, et on les compare avec des fossiles ou d'anciens sédiments. Alors on peut envisager des corrélations entre climat passé et climat actuel. Citons tout de suite un exemple. Les moraines sont des sédiments typiquement glaciaires. Alors leur position en fonction permet de localiser le recul des glaciers actuels, certes. Mais évidemment, si on retrouve ces mêmes traces dans des strates ou même au niveau de régions qui n'ont plus du tout de glaciers, on pourra donc conclure à la présence d'un glacier dans le passé. On peut tirer les mêmes conclusions de stries laissées par le glacier ou de blocs erratiques qui ont été transportés par le glacier. Il en va de même pour les tillites. Alors pourquoi les tillites? Parce que, en fait, ce sont des dépôts sédimentaires déposés par la fonte du glacier. On peut donc conclure qu'en trouvant des moraines et ou des tillites, en un endroit qu'il devait y avoir à un moment dans le passé qu'il va falloir dater, un glacier. Alors précisons tout de suite les définitions de moraines et de tillites. Les moraines, ce sont des débris de roches entraînés par un glacier et formant un grand amas. En fait, c'est simple, il s'agit de l'abrasion du glacier qui emmène des détritus rocheux en avant et sur les côtés. Alors les tillites, ce sont des sédiments argileux limoneux issus de la fonte d'un glacier et qui enveloppent des débris rocheux de différentes tailles. En fait, c'est simple, votre glacier fond, crée de l'eau liquide, cette eau liquide va entraîner les petites particules et les petites particules vont finir par se déposer autour de plus grosses particules et en se sédimentant, ça donne les tillites, c'est-à-dire en devenant une roche par diagenèse. Alors là, vous n'avez eu qu'un aperçu d'exemple à travers juste un glacier ou la formation d'un glacier ou la fonte d'un glacier. Mais grâce au principe d'actualisme, nous allons pouvoir relever plein d'indices qui vont nous permettre d'interpréter des données et d'envisager des climats passés. Et commençons tout de suite par grand B, les indices préhistoriques. Alors les hommes préhistoriques ont laissé des traces de leur passage dans différentes grottes, comme par exemple à Lascaux, il y a moins 17 000 ans, ou à Chauvet, il y a moins 36 000 ans. Les peintures rupestres retracent la faune locale. Et ces deux grottes ne sont séparées que de quelques centaines de kilomètres, et les variétés d'animaux représentées sur les parois sont différentes. À Chauvet, on a plutôt des mammouths, des lions des cavernes, des rhinocéros laineux, des chevaux et des cervidés. À Lascaux, ce sera plutôt des orques, des bisons, des lions et un peu de rhinocéros, beaucoup moins qu'à Chauvet. Juste à titre de comparaison, il y a presque autant de temps entre l'époque de Chauvet et Lascaux qu'entre nous et Lascaux. La faune a considérablement changé entre ces différentes périodes, montrant un réchauffement climatique. On peut observer dans une autre grotte, celle de Cosquer, avec deux périodes d'occupation distinctes, moins 27 000 ans et moins 19 000 ans, des peintures rupestres des animaux de ces deux périodes. Mais ce qui est évident, c'est que cette grotte est aujourd'hui en partie immergée et n'est accessible qu'à 37 mètres de profondeur entre Marseille et Cassis. Au moment où l'homme préhistorique fréquente les lieux, le niveau de la mer est plus bas d'au moins 120 mètres et la ligne de rivage se situe à environ 6 km de là. Il y a moins 27 000 ans, le climat et les paysages étaient ceux des temps glaciaires, à Marseille. Grand C, les indices géologiques. Alors ce sont des indices que nous pouvons utiliser sur des grandes échelles de temps. Certaines roches ne se forment qu'en conditions de climat chaud ou de climat froid, alors que d'autres restent indifférentes à ces paramètres. On connaît bien de nos jours ces processus de formation, notamment sur les conditions de formation des roches sédimentaires, ou diagenèse. Comme on connaît les conditions climatiques de formation de différentes roches, il est alors possible de donner le type de climat en fonction du gisement qu'on a trouvé et en fonction de sa datation. Cela replace donc la localité dans un environnement passé climatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un paléo-environnement climatique. Petit 1, l'étude des glaces. Et petit a, de l'air dans les glaces. Alors essayez de vous projeter dans des régions arctiques ou antarctiques. Lorsque la neige tombe, à des latitudes polaires ou circumpolaires, les cristaux se déposent au fur et à mesure, doucement, et peuvent être recouverts par de nouvelles précipitations. Ainsi, cette neige déposée, recouverte de nouveau, va alors se tasser, et de l'air se retrouve complètement piégé. Des séries de glaces sont ainsi créées et formées par des couches successives d'année en année, qui peuvent très bien se suivre par des lignes qui les séparent. Quand on effectue des forages glaciaires, on retrouve alors ces couches successives et on peut analyser l'air emprisonné justement quand ça a été tassé. Ce sont les petites bulles d'air qu'on voit dans la glace quand on prélève cette dernière. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette méthode, c'est qu'on peut remonter d'année en année. Et donc on a des archives climatiques très précises, notamment de l'air du passé. Alors comme vous le savez, les gaz à effet de serre sont présents dans l'atmosphère et on n'oublie pas qu'ils permettent une température de 15 degrés au lieu de moins 18 degrés sur Terre. Mais les variations de leur taux pourraient expliquer soit une baisse de température, on parle alors de période glaciaire, soit une hausse de température ou réchauffement, et on parle alors de période interglaciaire. Il est remarquable de noter que les périodes glaciaires correspondent à des taux faibles de gaz à effet de serre, alors que les périodes interglaciaires plutôt à des taux élevés. Ces observations peuvent nous donner des pistes concernant l'évolution du climat récent et donc nous permet d'envisager éventuellement un climat futur avec l'évolution des gaz à effet de serre actuels. Petit b, les variations isotopiques de l'oxygène. Alors attention à cette partie, il faut que ce soit très bien maîtrisé. En fait, une majorité d'exercices, pour pas dire la quasi-totalité, utilise ce delta O18 dans les études de doc. Alors sur quoi s'appuie cette étude? En fait, il existe trois isotopes de l'oxygène, O16, O17 et O18. Et en géologie, seuls les isotopes 16 et 18 nous intéressent. Alors quand on regarde O16, il y a 99,8% d'O16 parmi l'oxygène qui nous entoure. Et seulement 0,2% d'oxygène 18. Alors ce qui va nous intéresser, c'est le rapport entre O18 et O16. C'est pourquoi, quand on fait des prélèvements, on va mesurer O18, le taux d'O18, divisé par le taux d'O16, et ça nous représentera O18 sur O16 de l'échantillon. Et en même temps, on va comparer ça à un standard. Donc on fera O18 sur O16 de l'échantillon, moins le standard, et le tout divisé par le standard. Et comme les résultats seront très faibles, on va tout multiplier par 1000. Ainsi, le delta O18 se calcule toujours en fonction d'un échantillon, d'un standard, et puis d'une multiplication par 1000, d'où le pour 1000 qu'on obtient en termes de résultats. Alors, les scientifiques ont dû faire attention, notamment au choix du standard. Pour les carbonates, on s'est aperçu que les carbonates de calcium, CaCO3, renfermaient du O18, forcément fixé dans les océans. Et le premier élément qui a été étudié fut un rostre de bélemnite qui provient de la localité Pidi, en Caroline du Nord aux États-Unis, et on l'a appelé PDB1. Et c'est daté du Crétacé. À cette époque, il n'y avait pas de calotte glaciaire, on était en période chaude. En ce qui concerne les glaces, le standard s'appelle SMOW. Et sans rentrer dans les détails, c'est un standard moyen des océans retenu pour la glace des Inland 6. Alors définition, qu'est-ce qu'un Inland 6? En fait, c'est un glacier continental de très grande étendue, se présentant sous la forme d'une nappe de glace recouvrant la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Donc c'est ce qu'on appelle la calotte glaciaire. Alors comment on utilise les standards? En fait, ces standards sont très importants parce qu'ils permettent de calculer le rapport que l'on obtient par rapport à ce standard. Alors, ça donne quoi? Par exemple, pour les carbonates. Le rapport entre les carbonates et les océans permet alors de déterminer une température moyenne qui régnait à l'époque de la formation de ces carbonates. Et ainsi, par une relation simple qu'on a, qui est une relation juste linéaire, de température passée qui est égale à une constante, 16,9, moins 4 fois le delta carbonate qu'on obtient, moins le delta de l'eau où s'est formé ce carbonate. Et donc on est capable de donner une température en fonction du delta O18. Et ça, c'est très important. Alors, petit point cocorico. Pour ces analyses de la glace de l'Antarctique et du Groenland, permettant de connaître le climat passé, notamment ce qu'on appelle la paléoclimatologie, Jean Jouzel est reconnu mondialement. En 2002, il est récompensé pour ses travaux sur les paléoclimats et reçoit conjointement avec Claude Lorius la prestigieuse médaille d'or du CNRS. Le GIEC, et notamment l'équipe de Jean Jouzel, a reçu le prix Nobel de la paix en 2007 en tant que lanceur d'alerte climatique. Les faits scientifiques et l'argumentation, qui étaient difficilement acceptés au démarrage, sont aujourd'hui complètement acceptés par l'ensemble de la communauté scientifique. Alors retournons sur le cours. Pour l'étude de ces rapports isotopiques, le géologue Emiliani avait déjà établi une condition nécessaire au préalable. il faut se placer dans des conditions où il y a le moins d'arrivées d'eau douce. Parce que l'eau douce, si elle s'écoule, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un lessivage en fait, des isotopes. Une fois que cette précaution est prise, on peut alors analyser les calottes glaciaires. Cette analyse nous permet de déterminer les températures passées sur 800 000 ans au maximum, comme par exemple en Antarctique, exemple du dôme C. Mais cela suffit pour déterminer des cycles et leur intensité et pour imaginer leurs causes. Si ces événements climatiques sont superposables à d'autres événements réalisés ailleurs, par les mêmes méthodes ou par des méthodes différentes, on pourra alors conclure que le changement climatique a été global et a touché l'ensemble de la Terre. Alors comment on peut interpréter le delta O18 ? Si les mesures sont effectuées dans la glace, et attention, il faut bien distinguer glace et carbonate. Donc dans la glace, si on observe une diminution du delta O18, alors dans ce cas-là, ça veut dire une diminution de température. Et si au contraire on observe une augmentation de delta O18, on conclura alors à un réchauffement climatique, c'est-à-dire à une période interglaciaire. Dans le cas de mesures réalisées dans les sédiments marins, c'est exactement l'inverse qu'on observe. Ainsi, s'il y a une baisse de température, on observera une augmentation de delta O18. Et s'il y a augmentation de température, dans ce cas-là c'est l'inverse, c'est une baisse de delta O18. Alors ceci s'explique par une plus grande concentration d'eau 16 dans les glaces, et en raison de cette plus grande mobilisation de cet isotope dans la fabrication des nuages. Si l'eau contenue dans les précipitations ne retourne pas dans les océans et reste immobilisée dans les glaces, alors le delta O18 variera en fonction de la variation de balance entre le O16 et le O18. C'est ainsi que l'analyse des calottes glaciaires nous permet de déterminer les températures passées sur 800 000 ans au maximum, et notamment en Antarctique. Mais cela suffit pour déterminer des cycles et leur intensité, et pour imaginer leurs causes. En gros, cela nous a permis de bien mieux comprendre les variations climatiques. Si ces événements climatiques sont superposables en plus à des prélèvements réalisés à différents endroits à la surface de la Terre, par la même méthode ou par des méthodes différentes, cela conduira donc à conclure que le changement climatique est global et concerne le monde entier. N'oubliez pas que ce delta O18 n'est qu'une méthode. Il y a d'autres méthodes qui sont voisines, comme par exemple le delta D. Alors le delta D, c'est quoi? C'est le deutérium, ça correspond à l'isotope d'hydrogène. Mais comme vous le savez, l'eau, c'est H2O, donc on peut soit se focaliser sur l'oxygène, soit se focaliser sur l'hydrogène. Et donc le delta D se comporte de la même façon que le delta O18 au niveau des glaces. Petit 2. Les indices sédimentaires. Petit a, d'abord des périodes froides. Les moraines sont des sédiments typiquement glaciaires. Leur position en fonction des strates permet de localiser d'éventuels glaciers passés et leurs limites. C'est pareil pour les stries ou les blocs erratiques qu'on va retrouver. Il en va de même pour les tillites, puisque ce sont des dépôts argilo-limoneux déposés lors de la fonte de glaciers et qui cimentent les particules de différentes tailles qui ne sont pas ordonnées. Les moraines peuvent se transformer donc en tillites. A noter qu'en bordure des glaciers actuels, on retrouve ces éléments géologiques de la même façon, c'est-à-dire soit des moraines, soit éventuellement des limons qui englobent des graviers ou des éléments de plus gros calibre. Le loess. C'est un sédiment fin transporté principalement par le vent à des altitudes variables selon la granulométrie considérée. Mais surtout, c'est le signe de déserts froids périglaciaires. Autre indice géologique, les pergélisols, ou permafrost. Ce sont donc des sols gelés presque en permanence, créant des motifs polygonaux lorsqu'ils subissent un léger dégel. Alors de tels sols fossilisés sont évidemment des indices de période froide. À noter que ces sols-là renferment beaucoup de matières organiques non décomposées, et comme ces sols restent en permanence gelés, eh bien la dégradation de cette matière organique ne s'opère pas. En revanche, il est à craindre, s'il y a une fonte, que ces sols-là dégagent énormément de matière organique et donc libèrent des gaz à effet de serre. Alors petit b, les indices sédimentaires de période chaude. Les évaporites. Alors, ça correspond à des sels marins fossiles. Cela prouve une intense évaporation et la présence d'une faible tranche d'eau marine, comme les marais salants par exemple. Si de tels sédiments sont rencontrés, on peut supposer que des températures élevées régnaient alors dans cette région, engendrant de ce fait une forte évaporation marine. Mais juste prudence. Il existe des marais salants d'altitude et qui sont dans des climats froids. Par conséquent, il faut bien considérer l'ensemble des indices à notre disposition pour avoir une conclusion fiable. Les charbons. Alors, ils correspondent à d'anciennes forêts tropicales ou équatoriales, ce qui nous permet de les replacer dans ces zones climatiques. Mais là, encore une fois, faites attention, car il existe des forêts tempérées aussi, et des charbons peuvent également provenir de ces forêts tempérées ou boréales. Tout dépend des espèces à l'intérieur qui sont analysées. La bauxite, c'est une roche formée par l'altération de terrains tropicaux, dont les climats favorisent des précipitations importantes et une température élevée, alors provoquant le lessivage des sols. Ce lessivage se traduit par la libération d'oxyde et d'hydroxyde de fer et d'aluminium qui se concentrent sous un couvert végétal bien développé, donnant une couleur caractéristique ocre des terrains, des sols en pays tropicaux. D'ailleurs, cela se retrouve dans les baux de Provence, ce qui signifie qu'en Provence, il a existé des terrains tropicaux de ce type. En pays tropical, si le couvert végétal disparaît, le sol est alors entraîné par ruissellements successifs, ce qui donne une cuirasse impropre à la culture, qu'on appelle cuirasse latéritique, et complètement stérile aux cultures humaines. Enfin, dernier exemple de sédiments, et certainement l'un des plus importants d'ailleurs de votre savoir, c'est la précipitation des carbonates. En fait, les carbonates de calcium sont construits à base de calcium et d'ion carbonate. Les deux s'associant, vous formant du carbonate de calcium qui précipite dans les fonds océaniques, formant ainsi un sédiment qui, quand il se solidifie, donne le calcaire. Or, tout le monde le sait, la précipitation des carbonates de calcium est favorisée par une eau chaude. Autrement dit, le carbonate de calcium se dissout plus facilement dans une eau froide que dans une eau chaude. Ce qui veut dire que si on a des faciès de carbonate de calcium très puissants, avec des périodes hyperactives de formation de ce calcaire, ça veut donc dire qu'on était plutôt en climat chaud. Petit 3. Les indices de paléorivage. Les paléorivages montrent une organisation particulière et peuvent être repérés par différents moyens. Les sédiments s'accumulent partout au niveau océanique, y compris sur le talus continental. Lorsqu'il y a des effondrements ou des glissements de terrain, on retrouve une organisation avec des particules grossières dans le fond et des particules fines en surface. C'est évidemment la gravité qui fait ce tri. Ce granoclassement donne un type de roche qu'on appelle les fliches. Ces dernières nous indiquent donc l'emplacement de la bordure d'un talus continental. On peut aussi voir d'autres indices, comme des plages fossilisées révélant d'anciens domaines soumis au phénomène des marées, et des mouvements de vagues, et donc avec une faible profondeur marine. Ces études peuvent être accompagnées d'indices paléontologiques et sédimentaires qui nous confirmeront donc la profondeur de l'eau. Enfin, il existe une organisation particulière selon les sédiments, située plus ou moins loin du rivage. Les sédiments en particules les plus grosses sont proches du rivage et les plus fines éloignées, et on trouve encore plus loin des calcaires. C'est en fait la superposition des sédiments qui nous renseignera sur des figures de transgression ou de régression. De telles formations peuvent aussi être repérées par sismique réflexion. Ainsi, en superposant tous ces éléments, on peut retracer les lignes de paléorivage qui montrent des variations du niveau des océans en fonction du temps. Et ce niveau des océans moyens, on appelle ça le statisme. Or, on sait que les calottes glaciaires jouent un rôle dans ces variations ainsi que la température globale des eaux. Si le niveau est plus haut que le niveau actuel, la période devrait être plus chaude, tandis que le niveau, s'il est plus bas, le climat devait être plus froid. N'oubliez pas aussi qu'un des paramètres importants est la dilatation des molécules d'eau elles-mêmes. Plus il va faire chaud, plus les molécules d'eau vont être espacées entre elles, et donc ça va augmenter le niveau marin de façon considérable. Donc il y a deux choses à superposer, et d'un, les calottes glaciaires et leur fonte, et de deux, l'espacement des molécules d'eau entre elles, ou au contraire un rapprochement. Alors, rappel de définition, le statisme d'abord, c'est la variation du niveau moyen des mers ou des océans relativement par rapport au continent. La transgression, c'est une avancée de la ligne de rivage sur le continent provoquée par une élévation du niveau marin. Et enfin, la régression, c'est le déplacement de la ligne de rivage en direction de la mer, c'est-à-dire redescendant, résultant d'un abaissement relatif de ce niveau des mers par rapport à celui des continents. Grand D, les indices paléontologiques et paléoécologiques. Et petit 1, les fossiles continentaux d'abord. Différents fossiles peuvent permettre de retracer des climats passés, comme ceux représentés dans les peintures rupestres. Cela permet ainsi de reconstituer une faune, une flore, et donc tout un paléo-environnement dont l'adaptation révèle en partie les conditions climatiques qui régnaient à l'époque de ces fossiles. Nous ne nous focalisons ici que sur deux exemples tirés de fossiles végétaux, tout d'abord les indices stomatiques et puis ensuite la paléontologie. Petite précision, sur les peintures rupestres, il est possible de dater de façon absolue le moment où ces peintures ont été faites grâce au carbone 14. Donc c'est un très bon élément en fait de datation et en même temps d'évocation du paysage qui entourait nos prédécesseurs. Alors précisons les indices stomatiques. À quoi cela correspond? À partir de moins 300 millions d'années, les feuilles des végétaux sont pourvues de stomates. Ce sont des structures grâce auxquelles les végétaux réalisent leurs échanges gazeux au niveau des feuilles, comme vous avez pu le voir dans le chapitre sur l'organisation des plantes. Des études expérimentales ont prouvé que l'indice stomatique dépend de la teneur en CO2, ainsi plus l'air est riche en CO2 et plus l'indice stomatique est faible. En d'autres termes, moins il y aura de stomates à la surface de l'épiderme des feuilles. À partir de l'indice stomatique d'une feuille fossile, il est donc possible d'évaluer la teneur en CO2 atmosphérique à une époque donnée. Le Ginkgo biloba est un très bon représentant pour être étudié, car en fait il est apparu il y a 260 millions d'années et existe encore de nos jours. Donc il nous permet d'avoir une continuité de moins de 260 millions d'années jusqu'à nos jours, avec un indice stomatique qui sera représentatif en fait de la teneur en CO2 de l'atmosphère, et donc des gaz à effet de serre. La limite de cet indice en fait ne constitue juste que est-ce qu'on a suffisamment de fossiles, et en fonction des dates des fossiles, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des variations intermédiaires, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas des lacunes de temps. Petit b. La palynologie. Parmi les grandes familles végétales, les angiospermes et les conifères sont des espèces productrices de pollen, qui du fait de leurs parois exines et intines, sont assez résistants à l'oxydation et peuvent donc être aisément fossilisés ou conservés, notamment lorsqu'ils sont piégés soit dans des argiles ou même dans de la tourbe. Ainsi, les sédiments lacustres renferment les informations concernant des climats passés. On observe que la végétation meurt et forme de la matière organique qui ne se dégrade presque pas, c'est-à-dire des tourbières. Dans le même temps, des ravinements apportent des matières détritiques. Alors, quelques définitions. D'abord, la tourbe. C'est une matière organique fossile formée par l'accumulation sur de longues périodes de temps de matières organiques mortes, essentiellement des végétaux, composés de différents éléments, dont des mousses très particulières, la sphaigne, dans un milieu saturé en eau et très anoxique, permettant ainsi la bonne conservation de la matière organique. Les tourbières. Donc ce sont des zones humides colonisées par la végétation dont les conditions écologiques sont particulières et ont permis la formation d'un sol constitué d'un dépôt de tourbe. Le sol est saturé en permanence d'une eau stagnante ou très peu mobile et anoxique, privant la décomposition du milieu, et donc de la matière organique. Ainsi, la matière organique n'est pas décomposée ni recyclée, et la litière végétale s'accumule alors progressivement, formant un dépôt de matière organique accumulée et non décomposée, qu'on appelle la tourbe. Enfin, la palynologie, c'est la partie de la botanique qui étudie les pollens actuels et fossiles. Un palynologue est capable de déterminer en fonction des échantillons qu'il a, les pollens et les espèces correspondantes à ces pollens. Les grains de pollen sont remarquablement conservés, jusqu'à des millions d'années. D'une part grâce à leur enveloppe très résistante, donc l'exine et l'intine, et d'autre part grâce aux propriétés conservatrices des tourbières. Ce sont des cellules reproductrices mâles, dont l'enveloppe présente des motifs caractéristiques de l'espèce. On peut alors reconstituer la flore de l'environnement et son évolution. Comme l'implantation de la flore dépend du climat, on a alors des témoins de climat passé. En plus, la matière accumulée sur les zones de tourbières permet de remonter le temps en forant en profondeur. On pourra alors avoir une alternance de paléo-environnement. On appelle les diagrammes obtenus grâce aux différents pollens, à l'abondance en fait relative de ces pollens, un diagramme pollinique. Et ces diagrammes reportent verticalement l'abondance des différents pollens des espèces trouvées dans une série sédimentaire, souvent suite à un carottage qu'on a fait. Comme j'avais pu le dire déjà au niveau du delta O18, les diagrammes polliniques font partie des classiques d'études concernant en fait les documents fournis lors d'une épreuve de bac. Donc attention, il faut bien savoir analyser ce type de diagramme et l'argumenter. Petit 2, les fossiles océaniques. De nombreux organismes marins sont de bons bio-indicateurs des conditions océaniques dont ils supportent plus ou moins les variations de température, de salinité, d'agitation du milieu, etc. Les coraux sont des êtres dépendants actuellement des zones intertropicales. Ils vivent dans des conditions étroites de température et de salinité. Si on est en période chaude, alors cette zone aura tendance à s'étendre. A contrario, en période froide, la zone se restreint vers l'équateur. Par ailleurs, il a été démontré ces derniers temps que les coraux étaient aussi dépendants à l'acidité des océans et une augmentation d'acidité entraînera un blanchissement des coraux. Petit b, les foraminifères. Ce sont des organismes à test calcaire, ou si vous préférez, squelette calcaire, qui sont particulièrement intéressants puisqu'ils produisent d'importants sédiments et de nombreux fossiles. Les foraminifères sont un bon exemple d'organismes comportant des espèces indicatrices du climat. Grand 2, les causes des variations climatiques. Grand A, les causes astronomiques du climat. Milankovitch, en 1940, dont les travaux sont repris ensuite en 1988 par Berger, montre que le climat n'est pas stable au cours des temps et qu'il doit être dirigé par une commande astronomique du système solaire. De ce fait, l'ensoleillement reçu, aux latitudes nord essentiellement à cause de la dissymétrie des hémisphères, diffère suivant des périodicités dépendant de paramètres planétaires. Alors tout d'abord, petit 1, excentricité de la révolution terrestre. Il existe une variation des paramètres de révolution de la Terre. Il s'agit d'une variation des rayons de l'ellipse de rotation de la Terre autour du Soleil. Les différences enregistrées entre grand R et petit r peuvent varier en environ de 0 à 6% sur une périodicité de 100 000 ans, soit une variation entre 0 orbite de la Terre circulaire autour du Soleil à peu près et 0,06, l'écart qui est de 15 860 000 km quand même entre les deux distances sur 100 000 ans. Ensuite, petit 2, obliquité de l'axe de rotation de la Terre. L'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire par rapport au plan de l'écliptique. l'angle par rapport à cette verticale peut varier de 3 degrés à 27 degrés, plus ou moins 1 degré. Sa périodicité est de 41 000 ans. Si l'axe est très incliné, alors on a des étés chauds et des hivers froids. On sera en période interglaciaire. Sinon, avec un axe moins incliné, on a des étés frais et des hivers moins froids. Dans ce cas-là, ce seront des périodes glaciaires. Enfin, troisième et dernier paramètre orbital, c'est la précession des équinoxes. La Terre n'est pas sphérique, c'est à des attirances avec d'autres planètes, même mécanisme que les marées, mais à l'échelle des planètes. Cette attirance provoque des bourrelets qui créent un cône de précession. C'est un phénomène donc d'attirance, de déformation liée à sa rotation, c'est ce qu'on appelle un effet toupie. Cela peut engendrer des différences de présentation du pôle nord ou sud au Soleil. Sa périodicité est d'environ 21 000 ans. Elle varie en réalité de 19 000 à 23 000 ans. Grand B, les phénomènes amplificateurs ou boucles de rétroaction. Et petit 1, d'abord l'albédo. Si la glace et la neige n'ont pas fondu pendant l'été, alors une plus grande quantité d'énergie sera réfléchie vers l'espace. C'est un effet boule de neige ou amplificateur qui a pour conséquence d'accélérer le refroidissement. L'inverse est également vrai. Alors pourquoi ce phénomène est à relier à l'albédo ? En fait, l'albédo, c'est quoi ? C'est le pouvoir réflecteur d'un corps qui se traduit par grand A, la quantité d'énergie, réfléchie sur l'énergie reçue. Ainsi, la glace et la neige possèdent un albédo élevé, très fort, beaucoup plus fort que les sols, les forêts et même les mers possèdent un albédo faible. À noter qu'une éruption volcanique majeure, générant beaucoup de cendres ou même un impact météoritique renvoyant beaucoup de poussière dans l'atmosphère, augmente l'albédo global de la Terre, ce qui entraîne un refroidissement majeur. Petit 2, les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre peuvent, par leur concentration atmosphérique, accentuer un phénomène climatique. Si on prend l'exemple du CO2, alors en période chaude, le CO2 se dissout moins facilement dans l'eau de mer qu'en période moins chaude. Le CO2 aura alors plus tendance à diffuser vers l'atmosphère, ce qui augmentera l'effet de serre et amplifiera le phénomène. Grand C, les causes géologiques modifiant les climats sur de très grandes échelles. Les mécanismes des variations climatiques aux grandes échelles de temps impliquent des variations importantes dans la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Quatre mécanismes principaux expliquent ces variations climatiques importantes. Alors tout d'abord, le piégeage de la matière organique, sous forme de roches carbonées telles que le charbon ou le pétrole, fait baisser significativement la teneur en CO2 atmosphérique, générant ainsi une baisse thermique globale. L'émission de CO2 par l'activité volcanique, telles que les volcans, mais surtout par exemple par les rifts et la tectonique des plaques. Donc elle fait augmenter un gaz à effet de serre et produit généralement un réchauffement climatique. L'apparition de grands reliefs et l'augmentation de l'altération des roches. Généralement, elle entraîne un refroidissement climatique par un piégeage aussi du CO2. Enfin, la production massive de sédiments, comme par exemple les carbonates de calcium, peuvent entraîner effectivement un piégeage ou une augmentation du CO2 atmosphérique. Alors attardons-nous d'abord sur quelques réactions chimiques élémentaires et caractéristiques de processus d'altération ou de formation de roches, permettant ainsi de comprendre les mécanismes de libération ou de consommation de CO2. L'altération des silicates des roches magmatiques ou métamorphiques consomme du CO2 gazeux de l'atmosphère. Prenons par exemple l'érosion d'un pyroxène calcique, dont la réaction va s'écrire de la façon suivante. CaSiO3, c'est le pyroxène, plus 2 CO2, du dioxyde de carbone, plus de l'eau, c'est l'agent majeur de l'érosion et de l'altération des roches, donne SiO2, c'est-à-dire du quartz, plus Ca2+, du calcium, plus 2HCO3- de l'ion hydrogénocarbonate. Au niveau des océans, il existe des réactions qui libèrent du CO2, comme par exemple celle de la précipitation des carbonates. Ainsi, Ca2+, le calcium, plus 2HCO3-, c'est-à-dire l'ion hydrogénocarbonate, donne CaCO3, du carbonate de calcium ou le calcaire, plus CO2, du dioxyde de carbone, plus H2O, de l'eau. Le bilan de l'altération des silicates libérant du Ca2+, et consommant irréversiblement du CO2, montre une consommation de 2 CO2 pour une libération d'un CO2. Finalement, le bilan net est une consommation de 2 CO2 pour une libération d'un CO2, soit une consommation de CO2. Alors faisons le point sur cette dernière notion. Les processus chimiques impliquant la formation ou l'altération des roches qui libèrent ou consomment du CO2 jouent un rôle important dans la régulation de la teneur en CO2 de l'atmosphère aux grandes échelles de temps. Quelques réactions élémentaires et caractéristiques de processus d'altération ou de formation des roches permettent de mieux comprendre ces mécanismes de libération ou de consommation du CO2 tels que nous venons de le faire. À la surface des continents, l'altération des carbonates et des silicates consomme du CO2. Ça, c'est de façon générale. Mais retenez ceci aussi, c'est que plus vous aurez de relief, et dans ce cas-là, plus vous aurez d'altération. Donc si vous avez beaucoup d'altération, vous aurez beaucoup de consommation de CO2. Et cela signifie donc que plus vous avez de relief sur Terre, plus vous avez une confiscation, finalement, du CO2 atmosphérique. Et ces phénomènes sont entrés en ligne de compte dans des refroidissements climatiques majeurs. Grand 3. L'histoire climatique de la Terre au Phanérozoïque, c'est-à-dire de moins 541 millions d'années à aujourd'hui. Grand A, alternance glaciaire et interglaciaire du Quaternaire, c'est-à-dire de moins 2,6 millions d'années jusqu'à nos jours. Le Quaternaire est en fait la dernière partie du Cénozoïque. Elle est caractérisée par une alternance régulière de périodes glaciaires et interglaciaires, mise en évidence grâce aux thermomètres isotopiques tels que le delta O18 des glaces ou la concentration en gaz à effet de serre des bulles d'air des glaces elles-mêmes, et confirmée par les indices préhistoriques nombreux à cette période marquée par l'apparition et le développement du genre Homo. Ces alternances s'expliquent par une variation de la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre, selon les paramètres astronomiques découverts par Milankovitch, notamment. On remarque donc de grandes périodes de glaciation d'environ 100 000 ans, alternant avec de brèves périodes de réchauffement interglaciaire d'environ 20 000 ans. Au sein des périodes glaciaires, on observe des réchauffements et refroidissements plus brefs et de moindre ampleur, présentant une périodicité en fait de 40 000 à 20 000 ans, et qui correspondent au cycle de variation des paramètres orbitaux de la Terre. Le dernier maximum glaciaire s'est produit il y a environ 20 000 ans. La variation de l'insolation initie des périodes de refroidissement ou de réchauffement qui sont amplifiées par des boucles de rétroaction impliquant l'albédo des calottes glaciaires et la solubilisation du CO2 dans les océans, engendrant des sorties et des entrées rapides en période glaciaire. Grand B. Les variations du Cénozoïque, c'est-à-dire plus largement, de moins 65 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Les différents indicateurs montrent que le climat s'est refroidi surtout au cours des 30 derniers millions d'années. Au cours de cette période, la dynamique lithosphérique a permis la surrection de puissantes chaînes de montagnes, la chaîne alpine et himalayenne par exemple. La Terre est ainsi passée d'une configuration sans calotte, il y a moins 65 millions d'années, dite greenhouse, de climat chaud, à une configuration avec calotte, dite de configuration ice house, de climat froid. Les chaînes de montagnes, au fur et à mesure de leur croissance, subissent l'érosion. C'est ainsi que l'altération de certains minéraux consomme du CO2, faisant baisser sa concentration atmosphérique et donc la température globale. Il faut aussi considérer la tectonique des plaques qui a permis de modifier la circulation océanique grâce à l'ouverture et l'interconnexion des océans à partir d'environ 50 millions d'années. La température des eaux océaniques profondes a alors chuté progressivement de 14-15 degrés jusqu'à 2 degrés de nos jours. Ce phénomène traduit un refroidissement global de l'ensemble de la masse océanique, accompagnant le refroidissement global du climat et témoignant de la mise en route d'une circulation océanique moderne. Ainsi, la circulation océanique globale, dite thermohaline, mettant en place un brassage global des océans, n'a pu se réaliser qu'à la suite de l'interconnexion de ces trois océans, le Pacifique, l'Atlantique et l'Indien. Grand C, la période chaude du Mésozoïque, allant de moins 252 millions d'années jusqu'à moins 65 millions d'années. Les indicateurs, thermomètre isotopique et l'étude des fossiles, montrent qu'au Crétacé, les températures au pôle Nord étaient supérieures de 30 degrés aux températures actuelles. Le Crétacé est sans doute d'ailleurs l'une des périodes les plus chaudes de toute l'histoire de la Terre. Les données géologiques, importante accumulation de roches calcaires, évaporites, bauxites, les données paléontologiques et paléobotaniques, extension des flores et des faunes tropicales, dont les coraux à de hautes latitudes, témoignent d'une hausse générale de température atmosphérique et océanique. À cette époque, les calottes glaciaires n'existaient pas. On estime que la température moyenne était de l'ordre de 4 à 5 degrés Celsius au-dessus de la température actuelle. C'est l'expansion océanique qui gouverne essentiellement le climat de cette époque ainsi que la tectonique des plaques. Effectivement, la naissance des rifts océaniques permet un taux de CO2 alors particulièrement qui a augmenté jusqu'à 5 fois le taux actuel. Grand D, le paléozoïque de moins 541 millions d'années jusqu'à moins 252 millions d'années. Lors de l'ère paléozoïque, tous les continents étaient soudés en un vaste continent unique, la Pangée. Celui-ci résulte de collisions successives des blocs continentaux soumis à la tectonique des plaques. Les zones de suture ont constitué des ceintures orogéniques ou chaînes de montagnes, dont la chaîne Varisque ou Hercynienne en font partie et s'achèvent au Carbonifère. En Europe, le Massif central, les Vosges, le sud du Massif armoricain, aux USA, les Appalaches par exemple. Entre moins 350 millions d'années et moins 250 millions d'années, et l'altération de la chaîne hercynienne participe activement au piégeage de CO2 atmosphérique, entraînant une baisse globale des températures. Le Carbonifère, il y a moins 300 millions d'années, tient son nom de la grande quantité de charbon qui s'est formée à cette période, donc climat humide, chaud et tempéré. Et les gisements ont livré des fossiles de fougères arborescentes tels qu'on en observe actuellement en climat chaud et humide, principe de l'actualisme. Ce climat a donc été propice au développement d'une grande forêt luxuriante, dite la forêt houillère, produisant d'énormes quantités de charbon et donc piégeant de la matière organique qui s'est transformée en ce charbon lors de son enfouissement. Le CO2 a ainsi été piégé, ce qui a fait baisser la température globale de la Terre. Par conséquent, même si la France était en régime équatorial durant la période carbonifère permien, globalement, le climat s'est refroidi et se refroidissait à cette période-là. Conclusion. Grâce à notre connaissance des climats passés, nous pouvons analyser les perturbations climatiques et leurs causes passées. Depuis plusieurs centaines de milliers d'années, jamais la concentration du CO2 atmosphérique n'a augmenté aussi rapidement qu'actuellement. La prévision des climats futurs est un enjeu scientifique majeur, mais aussi économique et social. Il fait l'objet de conventions, d'accords et de protocoles internationaux. L'identification des paramètres qui contrôlent le climat de la Terre tout au long de son histoire est essentielle pour construire des modèles de l'évolution du climat dans le passé, mais aussi dans notre futur. La relation entre température moyenne de la surface de la Terre et concentration en gaz à effet de serre est observée tout au long de l'histoire de la Terre. Les scénarios d'évolution de la température moyenne de la Terre, mis à part la variabilité naturelle du climat, prennent en compte l'impact de l'activité humaine et suggèrent un réchauffement au cours du XXIe siècle de l'ordre de 2 à 5 degrés, ce qui rapproche d'un réchauffement climatique de l'ordre du Crétacé. Ce réchauffement à l'échelle du siècle se superpose à un refroidissement constant de plus grande ampleur, commencé il y a 20 millions d'années aussi. Attention, dans ce chapitre, il y a beaucoup d'arguments à connaître. Ces arguments vous permettent de déterminer s'il y a eu réchauffement climatique ou refroidissement climatique, et si ça s'est produit juste à une échelle locale ou à une échelle globale. Attention aux courbes, aux valeurs absolues des courbes, c'est-à-dire dans quel sens on va, et à la remontée du temps.